Vendredi, nous avons parlé de l'ingérence russe dans les élections roumaines. Juste après l'enregistrement, les prochaines élections ont été annulées, ainsi que le dernier tour des précédentes élections présidentielles. Qui essaie donc de voler les élections roumaines? Est-ce la Russie, l'Union européenne ou les deux? Nous allons nous pencher sur ces questions aujourd'hui sur Trumpet World en français. Qui vient de voler les élections roumaines? Nous avions déjà parlé de la campagne menée par la Russie, largement sur le réseau social TikTok, pour manipuler l'opinion publique en Roumanie. Peu après la fin de l'émission, la Cour constitutionnelle roumaine a pris la décision sans précédent d'annuler le résultat du premier tour des élections présidentielles et d'annuler les élections qui devaient se tenir le week-end, le second tour, en raison de l'ingérence russe par le biais de TikTok. Cela a donné lieu à de nombreuses accusations selon lesquelles ce sont les autorités roumaines, elles-mêmes, les forces du courant dominant, qui essaient de voler les élections. Que se passe-t-il donc en Roumanie? Je pense qu'il est utile d'examiner ce qui se passe des deux côtés de cette situation. Je pense que cela révèle le choc de deux empires émergents et la façon dont la démocratie est bafouée alors que ces deux puissances s'affrontent. Pour nous aider, je suis accompagné de Jérémy Jacques, spécialiste de la Russie et de l'Asie. Alors Jérémy, résumez pour nous la situation et expliquez comment la Russie est accusée d'avoir volé les élections roumaines par le biais de TikTok et des réseaux sociaux.
Oui, bien sûr. Les électeurs roumains se sont rendus aux urnes le 24 novembre pour le premier tour de l'élection présidentielle, comme vous l'avez dit. Et le résultat de ce scrutin a été choquant. Un candidat inconnu, très favorable à la Russie, est sorti de nulle part et a gagné. Il s'appelle Kalin Georgescu et il a obtenu plus de voix que les candidats les plus connus, ces politiciens qui dépensent des millions d'euros pour leur campagne. Georgescu, lui, a déclaré n'avoir dépensé un seul euro sur sa campagne. C'était choquant, non seulement pour les électeurs roumains, mais aussi pour de nombreuses personnes à travers l'Union européenne et les pays d'OTAN, puisque la Roumanie est membre de ces deux organisations occidentales. Les dirigeants de l'OTAN et de l'UE étaient donc extrêmement inquiets, car les retombées de la victoire de Georgescu étaient très claires. Comme vous le savez, il est très favorable à la Russie, il est anti-occidental et il a des opinions très extrêmes. Il a fait l'éloge du passé fasciste et antisémite de la Roumanie, y compris son alliance avec Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'aime pas non plus l'OTAN, et son leadership signifierait donc encore plus de division et de paralysie au sein de l'OTAN en particulier lorsqu'il s'agit de s'opposer à la Russie. Et sous sa direction, l'UE serait également encore plus inefficace et divisée. Le choc a donc été rude. Mais au fur et à mesure que la situation est devenue plus claire, la situation a commencé à devenir beaucoup moins mystérieuse et la vérité a commencé à émerger, indiquant clairement comment ce candidat inconnu d'extrême droite favorable à la Russie, qui n'a dépensé un seul euro, est passé d'environ 5% avant l'élection à la victoire. Et la façon dont cela s'est produit est le fruit d'une opération russe audacieuse principalement sur TikTok, la plateforme de réseaux sociaux qui est indirectement exploitée par le Parti communiste chinois. La Chine étant alliée à la Russie, il n'est pas surprenant qu'elle permette aux Russes d'utiliser TikTok de cette manière. Mais en fait, des dizaines de milliers de comptes sur TikTok ont fait la promotion de Georgescu de manière agressive auprès des électeurs roumains. Certains internautes ont réagi à ces messages et vidéos avec une énorme quantité de likes et de commentaires positifs et d'autres types d'interactions qui influencent fortement l'algorithme de la plateforme. Dans de nombreux cas, ces comptes favorables à Georgescu se faisaient également passer pour des Roumains et eux aussi écrivaient beaucoup de messages et publiaient des vidéos et d'autres choses de ce genre, ce qui a permis de s'entraider en donnant des likes et des commentaires pour manipuler l'algorithme car, souvenez-vous, il y avait des dizaines de milliers de comptes. Il est désormais prouvé que nombre d'entre eux ont été payés par la Russie par l'intermédiaire d'une société sud-africaine. Beaucoup d'entre eux ont accepté un paiement de 1000 euros pour écrire des messages dénigrant les candidats roumains pro-européens et faisant l'éloge de Georgescu comme étant, en quelque sorte, la solution à tous les problèmes de la Roumanie.
Et avons-nous des preuves que ces fonds provenaient de Russie? Parce que le fait de payer des gens pour influencer une campagne n'est pas nouveau, c'est ce qu'a fait la campagne de Biden. En soi, ce n'est pas particulièrement inhabituel. Nous savons que Georgescu a déclaré n'avoir rien dépensé pour sa campagne. Donc, si sa campagne a effectivement payé des influenceurs sur TikTok, il ne l'a pas déclaré, et il s'agirait d'un mensonge. Avons-nous des preuves? Savons-nous que cet argent provenait de Russie? Ou avons-nous simplement la preuve qu'il a été dissimulé d'une manière ou d'une autre, plutôt que d'être payé comme une dépense de campagne normale? Savez-vous ce qu'il en est?
D'après ce que j'ai vu, on est remonté jusqu'à Moscou par l'intermédiaire d'une société basée à Moscou. Et ces fonds ont été indirectement acheminés par l'intermédiaire d'une société sud-africaine afin d'en dissimuler les véritables origines. Si c'est le cas, il s'agirait d'une violation des lois roumaines sur le financement des campagnes électorales et même des exigences de TikTok en matière de publicité politique, car il faut déclarer lorsqu'une publicité est subventionnée par l'État. Mais en même temps que ces agents russes se faisaient passer pour des Roumains et faisaient agressivement la promotion de Georges Q, ils menaient également des cyberattaques sophistiquées qui leur permettaient de contourner les politiques de sécurité de TikTok et d'éviter d'avoir leur publicité catégorisée comme politique, même si c'est exactement ce qu'elles étaient. Et cela a été couronné de succès. Cela t'a joué un rôle important dans l'élection présidentielle roumaine et a suffi à aider ce candidat marginal pro-russe à remporter le premier tour du scrutin.
Effectivement, car il n'a pas participé au débat présidentiel. Il n'a pas parlé aux médias comme le ferait un candidat présidentiel traditionnel. Son succès, son marketing sont venus en grande partie grâce à TikTok et nous pouvons être sûrs que c'est ce TikTok qui a fait la différence.
C'est exact. Je pense que les preuves sont assez accablantes. Le plan a donc fonctionné, mais le problème est que, d'une certaine manière, il a fonctionné un peu trop bien. Pour de nombreux Roumains, il était évident ce qui s'est passé, car avant toutes ces manipulations inorganiques de la part de Moscou, cet homme avait une cote de popularité d'environ 5%. Mais il est subitement passé de cela à la victoire. Il était donc évident qu'il y avait eu beaucoup de manipulations. Les autorités roumaines ainsi que des autorités tierces ont enquêté sur cette affaire. Il n'a pas été difficile de constater que des dizaines de milliers de faux comptes avaient été créés sur TikTok et que de nombreux financements non divulgués avaient permis de créer cette illusion. Je pense qu'il est très révélateur que TikTok, qui est indirectement dirigé par le Parti communiste chinois, ait été forcé d'admettre que ses politiques de sécurité avaient été contournées et qu'il avait permis que la plateforme serve essentiellement de base à ses faux comptes pro-russes, se faisant passer pour des Roumains dans de nombreux cas. La Cour constitutionnelle roumaine a fini par annuler le résultat du premier tour des élections. Mais je pense qu'un aspect intéressant de cette affaire, c'est que la façon dont elle s'est déroulée est toujours une victoire pour la Russie. Et ce, malgré le fait que Moscou a été pris en flagrant délit de financement illégal et de mensonge. Malgré le fait que l'élection ait été annulée et que le gouvernement roumain ait dû intervenir de cette façon dictatoriale. Cela met en doute l'intégrité de l'élection, mais aussi la démocratie roumaine dans son ensemble. Cela donne l'impression que la démocratie est faible et inefficace. Et bien sûr, par contraste, cela donne une meilleure image de l'autoritarisme russe. Donc, pour la Russie, il s'agissait d'une stratégie qui ne pouvait pas échouer. Soit elle verrait son homme demain prendre le pouvoir, soit elle remettrait en doute tout le processus électoral et contribuer à démoraliser et à décourager les électeurs.
Je pense que vous avez brossé un tableau très convaincant, parce qu'il y a beaucoup d'opposition en ligne à cette histoire. Des gens qui disent que la Russie n'a pas essayé de voler l'élection. Mais nous savons qu'il y a des influenceurs sur TikTok qui ont été payés et on a pu suivre l'argent jusqu'à Moscou. Nous savons que TikTok a joué un rôle décisif dans l'élection. Et surtout, comme vous le soulignez, TikTok lui-même a indiqué qu'il s'est passé quelque chose de louche en supprimant un grand nombre de ses comptes. Un autre élément très convaincant est l'histoire de l'ingérence électorale de la Russie dans d'autres pays. Elle a déjà été prise les mains dans le sac, en utilisant des tactiques similaires pour tenter d'influencer d'autres élections, par exemple lorsqu'il s'agit d'un référendum sur l'adhésion à l'OTAN. Quels sont les antécédents de la Russie en matière d'ingérence aux élections dans d'autres pays?
En effet, vous avez tout à fait raison. Il y a des antécédents. La situation en Roumanie n'est pas du tout un cas isolé. Prenez pour exemple la Moldavie, c'est une ancienne nation soviétique. La Russie administre une partie du pays, la Transnistrie, où elle entretient une base militaire assez grande. Poutine travaille sans relâche à affaiblir le gouvernement moldave, qui est favorable à l'Occident. L'année dernière, il a dépensé quelque 55 millions de dollars sur seules les élections locales, afin de corrompre les électeurs et de financer illégalement un parti pro-russe. En octobre dernier, juste avant les élections présidentielles, la police moldave a découvert que les agents de M. Poutine avaient mis en place un système d'achat de voix extrêmement audacieux. ils ont dépensé environ 15 millions de dollars au cours du seul mois d'octobre, apparemment pour acheter des voix pro-russes. Les élections moldaves du 3 novembre n'ont finalement pas été favorables à Poutine. C'est surtout à cause des Moldaves vivant à l'étranger qui ont voté pour le gouvernement pro-européen. Mais cela montre que ce qui s'est passé en Roumanie n'est certainement pas un cas isolé. Poutine reste farouchement déterminé à ramener la Moldavie sous son pouvoir. Nous pouvons également nous pencher sur l'ancienne nation soviétique de Géorgie. La Géorgie est une petite nation du Caucase qui a été sous le contrôle de Moscou pendant près de 2 siècles, d'abord au sein de l'Empire russe puis de l'Union soviétique. Mais cela a pris fin en 1991, après la dissolution de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là que la Géorgie a obtenu son indépendance. Depuis lors, la Russie s'efforce de ramener la Géorgie sous le contrôle de Moscou. Nous l'avons vu de manière très spectaculaire lors de la guerre de 2008, lorsque la Russie a fait entrer des chars en Géorgie, a fini par conquérir environ 1/5 de son territoire et en a fait une zone russe. Ces dernières années, M. Poutine a tenté de placer une plus grande partie de la Géorgie sous son contrôle. Il travaille avec un homme nommé Bidzina Ivanichvili. M. Ivanichvili est l'homme le plus riche de Géorgie. Il a fait fortune à Moscou et reste étroitement lié au Kremlin et à Poutine. Lors des élections d'octobre, les forces de Poutine ont tout fait pour truquer les élections en faveur du parti d'Ivanichvili, le parti rêve géorgien. Il y a des vidéos qui prouvent que Poutine a engagé des voyous et provocateurs pour influencer le scrutin. Ce sont les mêmes vieilles stratégies d'intimidation. Il y a eu beaucoup de corruption et de manipulation avant le vote. Tout cela est bien documenté. L'ampleur de la fraude en Géorgie est donc stupéfiante. Mais elle a fonctionné. Et il y a aussi l'exemple de l'Ukraine, et c'est probablement le meilleur exemple de ce type de comportement de la part de la Russie de Vladimir Poutine. Il s'agit d'une autre ancienne nation soviétique, et en Ukraine, cela dure depuis des années. Poutine a toujours essayé d'installer des régimes fantoches et de les maintenir au pouvoir. On peut remonter jusqu'à 2003, la période précédant le vote de 2004. Poutine a dépensé beaucoup d'argent pour aider légalement et illégalement l'un de ses camarades, un certain Viktor Yanukovych, à accéder au pouvoir. Avant ce vote, Poutine a également fait empoisonner le candidat pro-occidental. Il y a un grand nombre de voix illégales, des voix mobiles illégales et des intimidations. Malgré tout cela, les sondages de sortie des urnes ont donné la victoire au candidat pro-européen empoisonné, Viktor Yushchenko. Mais curieusement, c'est l'homme de Poutine, M. Yanukovych, qui a été déclaré vainqueur. C'est ce qui a conduit à la grande révolution orange de 2004 en Ukraine, parce que les Ukrainiens pouvaient clairement voir que les élections avaient été volées. C'est ce qui s'est passé en 2003 à 2005. Poutine a perdu et il était furieux. Dans la période qui a précédé les élections ukrainiennes de 2010, ses agents étaient plus discrets et plus sophistiqués à bien des égards. Il y avait davantage de chaînes médiatiques pro-russes qui tournaient à plein régime en Ukraine. Elles étaient financées par les oligarques de Poutine. De grandes quantités d'argent ont été versées aux mandataires ukrainiens locaux et à divers hommes d'affaires pour acheter leur voix et pour qu'ils disent aux autres de se ranger du côté russe. Enfin, une campagne très sophistiquée a été menée pour redorer le blason de M. Yanukovych. Tout cela a suffi pour que Yanukovych arrive au pouvoir. Il a donc gagné en 2010, et bien sûr il s'est avéré qu'il n'était pas indépendant. C'était une marionnette russe comme il l'avait toujours été. En 2013, il a trahi le peuple ukrainien en rejetant l'accord historique qui aurait associé le pays avec l'Europe. M. Yanukovych a rejeté cet accord et s'est efforcé d'intégrer de plus en plus étroitement l'Ukraine à la Russie. C'est ce qui a poussé le peuple ukrainien à se soulever contre lui lors de la désormais célèbre révolution de Maïdan, en faveur de la démocratie. Les forces de sécurité de Yanukovych ont fini par ouvrir le feu sur certains de ces manifestants, et alors nous avons vu les manifestations prendre une ampleur extraordinaire. Il a fini par fuir le pays pour se réfugier à Moscou. C'est alors qu'on a vu l'un des cas les plus célèbres d'ingérence russe dans les élections. C'était en février 2014. La Crimée est la grande péninsule au sud de l'Ukraine, où la Russie avait et a toujours une grande base navale. Poutine a refusé de la perdre. Il a donc envoyé ce que l'on a appelé les petits hommes verts. Il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait de membres des forces spéciales russes. Mais en l'occurrence, ils étaient masqués et ne portaient aucun insigne sur leurs uniformes. Ils ont ensuite organisé un référendum, entre guillemets, sur la question de savoir si les habitants de la Crimée voulaient rejoindre la Russie. Il faut mettre cela entre guillemets, car ce vote a eu lieu alors que la Crimée était occupée par ses forces spéciales russes lourdement armées. Mais cela a fonctionné. La stratégie des petits hommes verts a fonctionné. La Russie a fini par annoncer que 97% des Criméens avaient voté pour que la péninsule fasse officiellement partie de la Russie. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'il a admis que ces petits hommes verts étaient bel et bien des forces spéciales russes agissant sous ses ordres. Peu après, la Russie a envoyé des troupes dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass. Et là encore, une fois ses forces en place, soutenant les milices pro-russes, il a organisé des référendums sur l'autonomie. Et il y a des tas de preuves de fraude aux urnes, de coercition, d'intimidation des électeurs, de bulletins de vote remplis à l'avance et bien sûr l'absence totale d'observateurs internationaux. Il est impossible de nier que Poutine emploie les mêmes tactiques. C'est un cerveau du KGB qui truque les votes pour atteindre ses objectifs. J'aimerais lire une citation du rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury. Elle est tirée de notre numéro de janvier 2004. Nous revenons donc 20 ans en arrière, juste après que Poutine ait truqué une élection russe. Il s'agissait donc d'une élection qu'il a truquée dans son propre pays. Monsieur Fleury écrit, je cite, « Poutine a été façonné et formé par le tristement célèbre KGB, le service secret impitoyable et meurtrier du gouvernement russe, rendu célèbre par Joseph Staline. Le monde entier devrait s'en alarmer. » Fin de citation. Encore une fois, cet extrait a été écrit en janvier 2004. À l'époque où M. Fleury a écrit ces mots, M. Poutine n'était à la tête de la Russie que depuis 4 ans. Très peu de gens voyaient en lui un despote en herbe ou une menace pour l'ordre mondial. Mais M. Fleury a reconnu les liens entre Poutine et Staline. Et maintenant, je pense qu'il est très clair qu'il existe des preuves presque sans fin que nous aurions dû être beaucoup plus alarmés que nous ne l'avons été au sujet de Poutine en 2004.
Permettez-moi de vous poser la question suivante. Il n'y a aucun doute quant au fait que Vladimir Poutine vole ses propres élections. La Russie n'est pas une démocratie. Mais quelle est la différence entre ce qu'il fait dans un pays comme la Moldavie ou la Roumanie et ce que ferait l'Occident ? Nous savons que les services de renseignement américains ne se sont pas contentés de créer de faux comptes, mais qu'ils ont installé des bureaux dans les sièges des grands réseaux sociaux américains. Nous savons que les réseaux sociaux américains ont orchestré diverses campagnes avec les réseaux sociaux à l'étranger. Nous savons que les États-Unis acheminent de l'argent vers des groupes de la société civile et des groupes politiques qui soutiennent leur position géopolitique dans certains de ces pays. Nous savons qu'il existe des groupes ou des organes d'information comme Radio Free Europe qui sont financés par les États-Unis. Pensez-vous que ce que fait la Russie est qualitativement différent de ce que font les États-Unis ?
Oui, je pense qu'il existe une certaine différence, car vous ne trouverez pas d'Américains en Moldavie ou en Ukraine avec des armes disant aux gens de voter pour tel ou tel candidat.
Mais nous n'avons pas vu cela en Roumanie. Je suis tout à fait d'accord avec vous au sujet de l'Ukraine, au sujet des régions qui sont sous contrôle russe, mais en Roumanie, il n'y a pas de soldats russes.
D'accord, mais même en Roumanie, personne n'a accusé les États-Unis d'avoir versé des millions de dollars pour influencer illégalement TikTok ou d'autres plateformes afin d'essayer de truquer le vote. Les États-Unis mènent bien sûr des campagnes de soft power dans le monde entier. L'Amérique a aussi des publications dans lesquelles elle essaye de faire passer son message. Je pense qu'il existe une grande différence entre la méthode russe et la méthode américaine, à savoir que les Américains soutiennent le droit à l'autodétermination. Et nous essayons de soutenir les candidats qui veulent la démocratie, qui veulent avoir une voix. En revanche, enfin, la Russie dit qu'elle ne veut pas d'autodétermination, elle veut soutenir des candidats qui laisseront la Russie vivre comme elle l'entend au niveau national. Je pense bien sûr que les États-Unis sont vraiment imparfaits. Mais si vous comparez cette nation à la Russie, qui ne veut qu'obtenir, qui ne veut que prendre, qui ne vient que pour voler et tuer et agir comme un voleur, je pense que la différence est flagrante. Et je pense que l'Amérique essaie généralement de dire qu'il faut laisser les pays choisir leur propre voie. Et donc, oui, la différence serait le soutien à l'autodétermination.
Je pense qu'il faut aussi tenir en compte le caractère national. Nous savons déjà que Vladimir Poutine tuera ses opposants politiques sans aucun scrupule. Aux États-Unis, cette pratique est beaucoup moins courante. Cependant, il y a aussi une certaine pourriture morale qui gangrène les États-Unis et qu'on ne peut pas nier. Et vous voyez comment l'État profond américain a été instrumentalisé pour tenter d'influencer les élections américaines. Par exemple, lors des élections de 2020, il y avait certains agents du renseignement qui travaillaient au sein des réseaux sociaux pour essayer de s'opposer à Donald Trump. Je pense que ce qui se passe à l'étranger se reflète dans ce qui se passe à l'intérieur du pays. Mais je pense aussi qu'il y a un niveau de mal et un niveau de pourriture morale en Russie qui est bien plus élevé que celui des États-Unis. Je pense qu'il y a certainement eu des hauts responsables américains qui auraient aimé jeter Donald Trump par une fenêtre pendant la campagne électorale de 2020. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Les choses n'allaient pas si mal qu'ils pouvaient s'en tirer. En revanche, c'est assez banal pour Vladimir Poutine de défenestrer un adversaire politique. Je pense donc qu'il y a une différence qualitative entre ce qui se passe à l'intérieur du pays et ce qui se passe à l'étranger et dans quel but. Je pense que vous avez soulevé un point important. En général, l'objectif de l'Amérique est de répandre la démocratie, alors que celui de la Russie est différent. Eh bien, je pense qu'il y a des exemples où l'Amérique est intervenue de façon non démocratique afin d'influencer l'élection d'un candidat favorable à l'Amérique. Je pense que cela arrive. Je pense que même lorsqu'il s'agit de l'histoire du Royaume-Uni, les États-Unis ont exercé une forte pression. C'est un fait assez bien connu qu'au milieu des années 1970, la CIA a exercé une grande influence en essayant de persuader la population du Royaume-Uni à voter en faveur de l'adhésion à l'UE, parce qu'elle pensait que ce serait à l'avantage des États-Unis. Donc, les États-Unis influencent effectivement les élections à leur avantage. Mais je pense qu'il faut tenir compte du caractère et des motivations, et il y a des différences qualitatives. Je pense qu'il faut avoir une compréhension plus nuancée sur cette question, au lieu de dire que tous les deux sont mauvais à un degré égal. Il y a bel et bien des différences. Dans son livre Modern Times, l'auteur Paul Johnson a écrit que l'essence de la géopolitique est de distinguer entre les divers degrés de mal. Nous vivons dans un monde diabolique. Satan est le dieu de ce monde. Mais nous pouvons toujours faire la distinction et voir qu'il y a divers niveaux de mal et que diverses nations y sont engagées de différentes manières. Mais je pense que c'est dans ce contexte que nous devons évoquer ce qui se passe en Roumanie. Si l'on considère les antécédents de la Russie en matière du vol des élections et ce qui s'est passé en Roumanie, c'est très convaincant. Si l'on considère les antécédents de l'Europe sur cette même question, je pense qu'il est tout aussi évident que la démocratie n'est pas l'objectif principal. Et je pense que nous venons d'être témoins d'un moment très dangereux où l'approche européenne à la démocratie s'applique aux élections nationales, à savoir « mauvaise réponse, réessayez ». C'est une tendance européenne. En 2001, l'Irlande a voté contre le traité de Nice qui aurait donné plus de pouvoir à l'Union européenne. L'Irlande s'est alors vue répondre « non, ce n'est pas la bonne réponse ». Et en 2002, l'Irlande fait le bon choix, entre guillemets. En 2005, la France et les Pays-Bas organisent des référendums sur la Constitution européenne, donnent une réponse que l'UE n'aime pas. Ils rebaptisent la Constitution européenne le « traité de Lisbonne ». On dit à la France et aux Pays-Bas qu'il n'y aurait plus de référendum. L'Irlande a eu lui aussi un référendum à ce sujet et a donné la mauvaise réponse. On leur dit « mauvaise réponse, réessayez ». Alors maintenant, nous voyons la même chose se produire en Roumanie. Vous avez voté pour quelqu'un que l'UE n'aime pas, alors il faut réessayer. C'est une tendance. Il ne s'agit pas d'un seul cas. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit uniquement en réponse à l'ingérence russe. Je pense aussi que l'on devrait bien comprendre ceci. En Roumanie, les accusations contre la Russie se limitent à son usage de TikTok pour influencer les électeurs. Pour autant que je sache, il n'y a aucune accusation de fraude électorale. Dans l'ensemble, chaque bulletin de vote correspond à une voix légitime et licite de la part d'un électeur. C'est donc le résultat de ce que les électeurs souhaitaient. La Russie est accusée d'avoir manipulé ce que désiraient ses électeurs. Mais personne ne conteste la procédure de vote proprement dite. En fait, la Cour constitutionnelle roumaine a tenu une audience à ce sujet et a décidé dans un premier temps qu'elle n'allait pas annuler l'élection parce qu'il n'y avait pas de preuve de fraude physique aux urnes ou de quoi que ce soit de ce genre. Aucun pot de vin, aucun achat de voix. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que la Cour a annulé le résultat de l'élection en raison de certaines autres choses qui se sont produites. Je pense donc que cela dresse la barre dangereusement basse en matière des justificatifs pour refaire une élection. Il y a effectivement eu des irrégularités. Mais nous vivons dans un monde où les lois sur le financement des campagnes électorales sont extraordinairement compliquées. Et je pense qu'à chaque campagne électorale, Aux États-Unis et au Royaume-Uni, certains écopent d'une amende pour avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes électorales. Si c'est votre parti, c'est une erreur anodine. Si c'est l'adversaire, c'est un signe de corruption. C'est ainsi que l'on voit les choses, mais cela arrive si souvent. Je pense que c'est parce que les lois sur le financement des campagnes électorales sont extraordinairement compliquées. Nous l'avons vu lors du référendum sur le Brexit, où les accusations d'ingérence russe et de fraude dans le financement des campagnes ont été instrumentalisées pour essayer de justifier un nouveau référendum sur le Brexit. En fait, il y avait un commentateur et activiste en particulier qui a été traîné devant les tribunaux par le biais de poursuites sélectives pour violation du financement de campagne. Il avait même appelé la commission électorale pour demander comment tout faire de manière licite. Mais par la suite, la commission électorale a décidé qu'elle avait donné des instructions erronées et l'ont donc poursuivi en justice. Ces réglementations ont donc servi d'armes par le passé. Nous avons vu Barack Obama écoper d'une amende pour avoir violé ce genre de règles, ainsi que Hillary Clinton. Alors, si le fait de ne pas déclarer correctement ses finances sert de justificatif pour refaire toute une élection, y compris pour le candidat roumain qui aurait payé des activistes sur les réseaux sociaux, on peut donc refaire n'importe quelle élection. C'est d'ailleurs la conclusion de Boris Kalnoky, directeur de l'école des médias Matthias Corvinus Collegium en Hongrie. Il a déclaré « Le raisonnement de la Cour constitutionnelle roumaine pour annuler les élections se repose sur des algorithmes, des influenceurs et un financement de campagne secret. Avec un tel raisonnement, on pourrait annuler toute élection démocratique de l'ère numérique si les autorités n'en apprécient pas le résultat. Je pense donc que nous allons dans une telle direction. Car l'Europe a de plus en plus l'habitude de dire « Non, vous vous êtes trompé, réessayez ». Et maintenant, elle le fait dans le cadre d'une élection nationale. Combien de fois devra-t-on refaire les élections ? En aval de tout cela, la Pologne a désigné une nouvelle organisation pour certifier ces élections, car cette nation est très polarisée entre un parti favorable à l'Union européenne et un parti qui ne l'est pas. Je pense donc que nous verrons désormais de telles choses se produire lorsqu'il y a des élections en Europe. Et nous verrons des procès, nous verrons des tribunaux statuer sur ces questions. Je pense que cette tendance est visible dans la façon dont l'Union européenne est intervenue dans les élections polonaises de l'année dernière. Il y avait bel et bien des preuves très convaincantes que la Russie ait volé l'élection. Je ne prétends pas connaître la bonne réponse à cela, mais je pense qu'il faut regarder les antécédents de l'Europe en matière de vol d'élections. Regardez ce qu'ils ont fait en Pologne, où l'Union européenne a imposé une amende d'€1 million par jour, la sanction la plus lourde jamais imposée, accusant le gouvernement polonais d'ingérence au système judiciaire. Dès que le nouveau gouvernement a été élu, on a annulé l'amende. Le nouveau gouvernement n'a rien fait. En théorie, cette punition existe en tant que mécanisme juridique qui s'applique lorsqu'une nation adopte une loi incompatible avec les traités de l'Union européenne. Mais la Pologne n'a fait que voter pour un autre parti. Puis l'amende a été annulée. Il s'agissait donc d'une amende pour avoir élu un gouvernement que l'Union européenne n'aimait pas. Donc, je pense que l'Union européenne est de plus en plus impliquée dans la manipulation des élections. Et je pense qu'elle le fait de différentes manières, tout comme nous voyons les États-Unis intervenir dans les élections d'une manière différente de la Russie. C'est par le biais d'amendes imposées par les tribunaux européens et par le biais de groupes de la société civile. L'Union européenne verse d'énormes quantités d'argent aux ONG. Elle dispose d'un vaste réseau de ces organisations non gouvernementales dans le monde entier qui diffusent un message favorable à l'UE parce qu'elles sont conscientes d'où viennent leurs avantages. Si la Russie faisait la même chose, nous crierions à l'injustice et à la corruption. Mais nous ne le faisons pas pour l'Union européenne. Nous avons tendance à vouloir trouver un protagoniste. Il y a un protagoniste et un méchant. Et je pense que ce que nous voyons en Roumanie, c'est être trop simpliste. Ce qui se passe, c'est que la démocratie elle-même est bafouée. Et je pense que nous voyons la fragilité de la démocratie. Nous l'avons vu aux États-Unis. C'est l'histoire des 8 dernières années de la politique américaine. Lorsque la société devient si polarisée que certains disent que l'opposant politique est littéralement Hitler et qu'il vaut la peine d'enfreindre les règles pour l'empêcher d'accéder au pouvoir, il est très difficile pour la démocratie de survivre. Et maintenant, en Europe, c'est l'UE et même l'OTAN contre la Russie. les deux côtés sont maintenant prêts à modifier les règles pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors, comment la démocratie peut-elle survivre dans ce genre d'environnement ?
Je pense que vous soulevez un excellent point à ce sujet. Et c'est pourquoi je dis que, d'une certaine manière, les Russes en avaient une stratégie infaillible en Roumanie. Dans le meilleur des cas, elles réussiraient à installer un homme aligné sur les intérêts russes et contre l'OTAN et l'Union européenne. Mais même dans le pire des cas, si leur subterfuge était découvert, ils finiraient par jeter une ombre sur la démocratie. Ils finiraient par l'exposer comme étant très faible et inefficace. Ils exposent le même l'UE comme étant dictatoriale, perception qu'elle n'aime pas du tout. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que la réponse des tribunaux à cette question et l'annulation des résultats jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats désirés donne l'impression que la démocratie est faible et inefficace. Et cela fait briller le modèle russe d'autoritarisme par comparaison. Il est donc difficile de savoir qui a fait preuve d'un pire comportement dans cette affaire, les Russes ou les Européens. Mais une chose est claire, et c'est que la Russie profite lorsque les gens en viennent à poser une telle question.
Oui, je pense que c'est un très bon point. Et c'est peut-être là le plus grand objectif de la Russie. Je pense qu'en ce moment, Moscou croit que si la démocratie perd, elle gagne. Car Vladimir Poutine tire une grande partie de son pouvoir idéologique, du fait qu'il mène le monde dans la direction de l'homme fort. Et c'est même, je pense, une partie de la raison pour laquelle il soutient Bachar el-Assad. Il y a aussi des raisons géopolitiques. Mais Poutine est en quelque sorte la figure de proue antidémocratique. Et donc, si la démocratie est vaincue, c'est une victoire pour lui. Nous nous attendons également à l'essor d'un leader fort en Europe. Et nous voyons actuellement que la démocratie n'arrive pas à procurer à l'Europe des dirigeants forts. La société devient de plus en plus polarisée, ce qui rend encore plus difficile l'émergence d'un leader fort issu de la démocratie. L'Europe est entourée de crises. Elle est encerclée et attaquée à bien des égards par une Russie agressive. Nous voyons la Syrie s'effondrer et menacer d'envoyer encore plus de réfugiés en Europe. Pour les Européens, Poutine a un certain attrait, surtout lorsque la démocratie est discréditée, car lorsque la démocratie perd son statut moral élevé et n'est plus perçue comme une forme de gouvernement moralement supérieur, il ne semblera plus être un compromis pour s'en débarrasser au nom d'un leadership fort. Je pense donc que tout cela conduit à l'émergence du leader fort en Europe que nous attendons depuis longtemps. Et je pense que ceux qui désirent ce genre de leadership considèrent peut-être ce que fait la Russie comme une victoire également. Mais cela est en train de changer radicalement l'Europe. Lorsqu'il y a un leader fort à la tête de l'Europe, le continent peut devenir un rival agressif pour la Russie qui risque de causer beaucoup de souffrance à Vladimir Poutine. Je pense donc qu'en discréditant la démocratie, il ouvre également la voie à beaucoup de souffrance pour lui-même. Et je pense que je devrais me référer à l'article du rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury, « Des dirigeants mondiaux qui n'ont plus d'esprit humain ». Cela décrit parfaitement le monde qui prend forme autour de nous. Le livre de Daniel décrit ces hommes forts comme ayant le cœur d'une bête. Et M. Fleury dit qu'ils ne se comportent même plus comme des êtres humains. Ils sont si belliqueux, si égoïstes et si dépourvus de tout frein moral dans la poursuite de leur intérêt personnel qu'ils sont semblables aux bêtes. Et M. Fleury écrit, je cite, « Ces dirigeants bestiaux et ces empires bestiaux qui s'affrontent et écrasent des millions et des milliards de personnes, constituent une fin horrible à la rébellion de l'humanité contre Dieu. » Et je pense qu'à bien des égards, nous avons eu un petit avant-goût de cela avec ce qui s'est passé en Roumanie et au-delà, en Europe de l'Est. Nous voyons cette puissance bestiale monter en puissance en Europe. Et nous voyons déjà en Russie un leader mondial avec un cœur de bête. Nous commençons à voir les gens se faire écraser entre les deux. Et la démocratie est bafouée. Que ces fraudes soient effectuées par l'État profond des États-Unis ou de l'Union européenne, ou de manière plus flagrante par la Russie de Vladimir Poutine, tout cela conduit à l'écrasement de l'humanité. Nous assistons donc à la montée de ces hommes forts, ces hommes au cœur de bête que décrit M. Fleury. Or, comme l'écrit M. Fleury dans cet article, cela prend fin au retour de Jésus-Christ. Nous vivons un moment clé, et nous sommes témoins des temps des nations et de l'essor de tous ces dirigeants au cœur de bête. M. Fleury écrit « Nous sommes déjà profondément plongés dans les temps des nations. Vous pouvez voir cela se produire. Regardez l'Iran. Regardez l'Europe en particulier et l'Asie. » Et il dit plus loin « et la puissance des armements et des armes qui prolifèrent sur Terre aujourd'hui devrait véritablement rendre la réalité des avertissements du Christ très réelle pour nous. Je pense donc que la démocratie touchera bientôt à sa fin et que nous sommes déjà à l'heure des bêtes. C'est ce qui ressort de cette situation. Or, la bonne nouvelle, c'est que cela nous mène directement au retour de Jésus-Christ. Il reviendra pour apporter la paix à un monde rempli de ces bêtes, qui s'affrontent et qui écrasent les gens. Cet article, « Des dirigeants mondiaux qui n'ont plus d'esprit humain », est tiré de la Trompette version imprimée. C'est un article très profond, et nous avons mis un lien vers cet article dans la description. Merci vraiment beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Jérémy. Je pense que nous avons eu une discussion très intéressante avec vous.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Et merci à Isaac Lawrence et Georges Haddad pour la production. Nous serons de retour bientôt. D'ici là, continuez à surveiller votre monde.